spationaute, le métier de Thomas Pesquet, le prochain Français à partir dans l'espace. Ce sera au mois de novembre. Il rejoindra la Station Spatiale Internationale pour 6 mois. Ce sera le 10e Français à partir dans l'espace. Le premier vol d'un Français remonte à 1982, le dernier à 2008. Qu'est-ce que l'humanité peut encore apprendre avec ces missions? Pour en parler, Thomas Pesquet, spationaute, bonjour.
Bonjour.
Et Jean Coan, attaché de communication de l'Agence Spatiale Européenne, bonjour.
Bonjour.
Alors, Thomas Pesquet, vous êtes astronaute de l'Agence Spatiale Européenne depuis 2009. Vous vous entraînez depuis mars 2014. Entraînement très intensif, investissement personnel énorme. Ça vaut vraiment le coup?
Oui, alors du moins j'espère, parce que sinon c'est un peu dommage. Non, bien sûr que ça vaut le coup, c'est quand même une expérience qui dépasse l'entendement, je pense, au niveau personnel d'aller dans l'espace. C'est mon rêve d'enfant, donc atteindre son rêve, ça a pas de prix, ça nécessite toujours des sacrifices.
Vous n'êtes pas le premier, je le disais, à partir dans l'espace. Vous allez y rester 6 mois, qu'est-ce que vous allez faire de différent qui n'a pas encore été fait par l'homme dans l'espace?
Alors, ce qu'on fait aujourd'hui dans la Station Spatiale Internationale, c'est vraiment de la recherche. On met ce laboratoire qu'on a achevé en 2011, hein, les derniers modules, c'est vraiment 2011-2012, donc il tourne à plein régime que depuis 2-3 ans. Donc c'est faire de la recherche, utiliser les propriétés de l'impesanteur pour avoir accès à des phénomènes physiques ou chimiques ou biologiques qui sont masqués sur Terre, en faire avancer la connaissance et puis mettre tout ça au service des citoyens de la Terre.
Mais ça veut vraiment dire que vous allez faire des expériences qui aujourd'hui n'ont pas encore été faites?
Oui. Alors c'est vrai que parfois on a du mal à le croire, on se dit mais on va dans l'espace depuis 40-50 ans, mais faut voir qu'au début c'était essentiellement uniquement des missions d'exploration, on allait dans l'espace pour aller dans l'espace, on plantait un drapeau ensuite on a eu la station Mir, mais qui était uniquement côté russe, et la première fois maintenant depuis 98 avec la station spatiale qu'on a un laboratoire international qui est mis à la disposition de la communauté scientifique, donc ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas à l'époque.
Alors Jean-Claude, justement, on le disait, depuis longtemps on va dans l'espace. Finalement, qu'est-ce que l'espace a apporté? Qu'est-ce que la science dans l'espace a apporté pour nous les humains?
Mais comme le disait Thomas tout à l'heure, bon, ça fait même pas 50 ans qu'on est dans l'espace. Là, il y a une continuité, une permanence dans l'espace. La science a permis de connaître plein de choses, de faire évoluer même les pampers, on va dire, pour les astronautes qui partent dans l'espace. C'est un sujet, bien sûr, que toutes les mères de famille connaissent, et les pères de famille aussi, d'ailleurs. Et donc, bon, il y a plein d'exemples qui ne viennent pas directement en tête, là, tout de suite, mais bon, la science a fait évoluer l'espace. L'espace a fait évoluer la science.
Thomas Pesquet, est-ce que rester aujourd'hui en orbite autour de la Terre pour travailler dans un laboratoire, ça a encore du sens?
Oui, ça a du sens. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la station spatiale, on fait vraiment les deux. On fait de la recherche spatiale, donc il y a le côté laboratoire, c'est vrai, comme tous les autres laboratoires qu'on a sur Terre, comme les laboratoires de l'INSERM, du CNRS, l'accélérateur de particules, on est vraiment scientifique, enfin laboratoire scientifique au même titre, mais c'est aussi un pas sur la route de l'exploration, et c'est un pas qui était nécessaire. Si on veut aller faire des missions plus lointaines dans le cosmos qui vont durer plus longtemps, mais il a fallu apprendre à vivre dans l'espace, et ça on le fait avec la station spatiale. Maintenant on a maîtriser cette orbite basse terrestre, il va être temps d'ouvrir derrière nous le passage pour la sphère un peu privée, et puis les astronautes professionnels vont aller comme ça de plus en plus loin dans le cosmos.
Justement, vous le dites donc, Thomas Pesquet, le moment est venu de quitter l'orbite terrestre.
Oui, tout à fait, mais on a ça en ligne de mire depuis quelques temps déjà. On sait que maintenant, on voit cette transition qui s'effectue. Côté américain, maintenant, le ravitaillement de la station va être assuré par des vaisseaux privés. On voit des projets d'hôtels en orbite basse, peut-être demain une station scientifique, mais privée, où les laboratoires, où les entreprises vont pouvoir dire, nous, ça nous intéresse, telle recherche, on va faire ça. Et derrière, la NASA, l'ESA, main dans la main, s'engage sur des projets de capsules habitées pour aller de plus en plus loin dans l'espace. Donc on est déjà engagé sur ce processus-là.
Justement, Jean Coan, l'avenir de notre Terre, de l'homme, peut-il dépendre de l'espace? Et je fais par exemple référence à certains minéraux que l'on pourrait trouver, des nouvelles sources d'énergie aussi dans l'espace.
On a parlé bien sûr d'hélium-3, qui pourrait être utilisé dans des réacteurs de fusion nucléaire. On parle bien sûr de minerais, de choses qui pourraient être exploitées sur des astéroïdes, sur des comètes, et récupérer des choses qui pourraient être intéressantes pour l'homme après sur Terre, mais aussi bien sûr le développement de tout ce qui est possible à l'extérieur de la Terre, et puis bon, c'est dans l'esprit d'exploration.
Thomas Pesquet, il y a une chose dont on parle finalement rarement, mais la grande utilité de la Station Spatiale Internationale, finalement, est-ce que ça n'a pas été de permettre à plusieurs pays d'apprendre à travailler ensemble, Américains, Russes, Japonais, Européens. Ça paraît normal aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était extraordinaire. Quand on a vu un Américain serrer la main d'un Russe dans l'espace, tout le monde était étonné. Aujourd'hui, ils travaillent main dans la main.
Oui, c'était complètement impensable à l'époque. C'est vrai que c'est un des succès les plus peut-être marquants de la station spatiale. C'est pas pour ça qu'on l'a faite à l'origine, mais c'est un succès que du moins il faut pas nier. Des pays qui étaient pas spécialement toujours amis sur Terre, qui parfois encore aujourd'hui malheureusement le sont pas, maintenant travaillent la main dans la main, de manière visible, de manière exposée, au su et au vu de tous. Ça permet d'éviter que les conflits dégénèrent de manière encore plus dramatique malheureusement. On va continuer cette démarche-là. Aujourd'hui, on parle d'intégrer les Chinois. C'est un peu bloqué côté ISS, mais pour une grande mission d'exploration de demain, eh ben, il faudra intégrer toutes les bonnes volontés. Et puis, si on va plus loin dans l'espace, il faudra le faire au nom de tous. Et ça veut dire vraiment englober le plus grand nombre de nationalités et de parcours différents sur Terre.
Il y a des choses qui paraissent très triviales. Par exemple, je crois au départ, des problèmes qui se posaient, les prises n'étaient pas la même dans le secteur russe, dans le secteur américain, dans le secteur européen.
Oui, il y a les interfaces mécanique, électrique. Côté américain, c'est 120 volts. Côté russe, c'est 28 volts. Donc déjà, rien que ça implique d'emmener des convertisseurs. Mais on y arrive, en fait. On voit que c'est pas facile, mais qu'on y arrive. Effectivement, travailler tout seul dans son coin, c'est toujours plus facile. Mais on peut pas espérer le même niveau de résultat. La station spatiale, c'est pas quelque chose qu'une nation individuelle aurait pu construire d'elle-même. Même les États-Unis, aussi puissants soient-ils, même les Chinois pourront pas faire aussi bien. Une mission vers Mars, ça impliquera que tout le monde tire dans le même sens. Autant partir de ce constat-là et puis mettre toutes les bonnes volontés sur la ligne de départ dès aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Vous le disiez, c'est un rêve d'enfance, mais est-ce que vous avez aussi une vision, je dirais, plus altruiste de votre mission ?
Bien sûr, moi je vois toujours qu'il y a deux choses dans cette mission spatiale. Il y a ma petite aventure à moi, égoïste, de vivre mon rêve, de voir la Terre de là-haut, et puis vraiment de me faire des images et du rêve dans la tête, probablement jusqu'au moment de ma mort, parce qu'en 6 mois, on a le temps d'imaginer quand même beaucoup de choses et d'emmagasiner beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas le plus important, quelque part. C'est pas une petite aventure à moi. Ce qui est important, c'est que c'est aussi l'aventure humaine, que cette mission de 6 mois, elle sert pas pour moi à me faire plaisir, elle sert pas aux astronautes à former un club exclusif où on se met les grandes tables dans le dos, où on s'accroche des médailles. Elle sert à avoir des résultats scientifiques, elle sert à mettre la recherche au service de l'homme, et puis elle sert à pousser un peu ce chemin de l'exploration dans le milieu spatial, mais qui n'est jamais que la continuation de ce qu'on a fait sur Terre, d'une grande aventure humaine. Donc c'est aussi le symbole de l'aventure humaine, c'est quelque chose qu'on fait pour et au nom de tous les citoyens sur la Terre.
Alors, on a de la chance de vous avoir en ce moment, mais je crois que c'est quasiment les derniers jours, parce qu'après, jusqu'en novembre, c'est quoi ? C'est temps complet, 100%, 24 heures sur 24 à l'entraînement ?
Après, oui, ça va être assez prenant, on va dire. Là, il me reste 10 mois environ jusqu'à la mission. Beaucoup de voyages entre Houston, Moscou, qui sont les deux principaux centres d'entraînement, mais aussi le Japon, le Canada et un petit peu en Europe, au centre des astronautes à Cologne.
Pourquoi faire tous ces voyages ?
Parce que chaque partenaire de la station a amené son expertise, a amené ses modules, mais est aussi responsable de l'entraînement sur ces modules. Donc si je veux m'entraîner sur les modules américains, il faut que j'aille à Houston. Si je veux m'entraîner sur le Soyouz russe, il faut que j'aille à la Cité des Étoiles à Moscou. Ça implique d'avoir déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre pour l'entraînement avant de décoller pour le jour J.
Et ça implique de parler combien de langues ?
Ça implique de parler, on va dire, deux, vraiment, dans la vie de tous les jours, c'est anglais et russe. Ensuite, c'est vrai qu'au sein de l'agence spatiale, si on parle d'autres langues européennes, ça aide. Et puis demain, il faudra sans doute parler un peu chinois.
Merci beaucoup Thomas Pesquet, merci aussi à Jean Couanne. Les mots de l'info, c'est sur France Info et à retrouver sur franceinfo.fr.